moi une histoire.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires et toujours et encore des histoires de Bretagne. Ça fait quelques semaines et on va continuer encore aujourd'hui avec les Corils de Plaudrin. Corils, et bien évidemment vous aviez tous traduit, il s'agit des Korrigans. Oh oui, une histoire de Korrigans, c'est une classique, une grande classique qu'on retrouve chez Émile Souvestre au 19e siècle. C'est dire si celle-là, elle date d'un bon moment. Il y avait autrefois dans le pays du blé blanc et dans celui de la pointe de terre une race de nains ou Korrigans partagés en quatre peuplades qui habitaient les bois, les landes, les veaux et les métairies. Ceux qui habitaient les bois s'appelaient Cornicanèdes parce qu'ils chantaient dans les petites cornes qu'ils portaient suspendues à leur ceinture. Ceux qui habitaient les landes s'appelaient Corils parce qu'ils passaient toutes les nuits à danser des rondes au clair de lune. Et ceux qui habitaient les veaux s'appelaient Poulpicans, c'est-à-dire qui ont le terrier dans les lieux bas. Quant aux teus, c'était de petits hommes noirs qui se tenaient dans les prés et les blés mûrs, mais comme les autres Korrigans les accusèrent d'être les amis des chrétiens, ils furent obligés de s'enfuir dans le Léonais où il en reste encore peut-être quelques-uns. Au temps dont je parle, il n'y avait donc plus déjà par ici que des Cornicanèdes, des Poulpicans et des Corils, mais ils étaient en si grand nombre que la nuit venue, bien peu de gens osaient s'aventurer près de leur palais de pierre. Il y avait surtout en Plaudrin, auprès du petit bourg de Localtas, une lande appelée Motten d'Hervern, ou comme disaient les Gallos, la terre du chêne, dans laquelle se trouvait un grand village de Corils que l'on peut voir encore aujourd'hui. Les méchants nains y venaient danser toutes les nuits, et celui qui osait alors traverser la lande était sûr d'être entraîné dans leur ronde et forcé de tourner avec eux jusqu'au premier chant du coq. Aussi ne se hasardait-on pas à y aller. Cependant, un soir, Beniad Gilcher, qui revenait avec sa femme d'un champ où il avait mené la charrue tout le jour pour le compte d'un fermier de Cadoudal, prit par la lande hantée afin de raccourcir le chemin. Il était de bonne heure et il espérait que les Korrigans n'auraient point encore commencé leur danse. Mais arrivé au milieu du Motten d'Hervern, il les aperçut et éparpillés autour des grandes pierres comme des oiseaux sur un champ de blé. Ils allaient retourner en arrière lorsque les cornes des nains des bois et les cris d'appel des nains des vallées retentirent derrière lui. Beniad sentit ses jambes trembler et dit à sa femme « Sainte Anne, nous sommes perdus car voici les Cornicanèdes et les Poulpicans qui viennent rejoindre les Corils pour mener le bal toute la nuit. Ils nous forceront à danser jusqu'au jour et mon pauvre cœur n'y pourra tenir. » De fait, les troupes de Korrigans arrivaient de tous côtés, entourant Gilcher et sa femme comme les mouches de loot entourent une goutte de miel. Mais ils s'écartèrent en apercevant la petite fourche à nettoyer la charrue que Beniad tenait à la main et ils se mirent à chanter tous ensemble « Laissons-le, laissons-la, fourche de la charrue là, laissons-la, laissons-le, la fourchette est avec eux. » Gilcher comprit alors que le bâton qu'il tenait à la main était une défense magique contre les Korrigans et il passa au milieu d'eux avec sa moitié de ménage sans avoir rien à souffrir. Ce fut un avertissement pour le pays. À partir de ce jour, tout le monde sortit le soir avec la petite fourche et l'on put traverser sans crainte les bruyères et les veaux. Mais Beniad ne trouva pas que ce fût assez d'avoir rendu ce service aux Bretons. C'était un homme d'esprit curieux et subtil, et d'aussi joyeuse humeur qu'aucun bossu des quatre évêchés bretonnants. Car, ah oui, je ne vous ai point encore dit que Beniad portait une bosse de naissance placée juste entre les deux épaules et dont il eût bien voulu se défaire au prix coûtant. Du reste, on le regardait comme un bon mercenaire, gagnant sa journée en conscience et aussi comme un vrai chrétien. Un soir, ne pouvant plus résister à son désir, il prit sa petite fourche après s'être recommandé à Sainte-Anne et s'en alla vers le Motten d'Hervern. De plus loin que les Corils le virent, ils accoururent en criant « C'est Beniad Gilcher !»« Oui, mes petits hommes, c'est moi !» répondit le bossu jovial. « Je viens vous faire une visite de voisinage !» Sois le bienvenu, répliquèrent les Corils, veux-tu danser avec nous ? Faites excuse, brave Jean, reprit Guilcher, mais vous avez la laine trop longue pour un pauvre infirme. Nous nous arrêterons quand tu le voudras, crièrent les Corils. Mais le promettez-vous, dit Bénéade, qui n'eût pas été fâché de scier la ronde par curiosité pour pouvoir en parler. Nous te le promettons, répondirent les nains. Sur la croix du Sauveur, sur la croix du Sauveur. Le bossu, persuadé qu'un pareil serment le mettait à l'abri de tout malheur, prit place dans la chaîne et les Corils commencèrent la ronde en répétant leur chant accoutumé. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Au bout de quelques instants, Guilcher s'arrêta. Sauf le respect que je vous dois, mes gentilshommes, dit-il aux nains, votre chanson et votre danse me paraissent peu variées. Vous vous arrêtez trop tôt dans la semaine et sans être un rimeur habile, je crois que je puis allonger le refrain. Voyons, voyons, répétèrent les nains. Alors le bossu reprit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Une grande rumeur s'éleva parmi les Corils. Stand, stard, criait-il en entourant Guilcher. Tu es un chanteur d'esprit et un beau danseur, répète, répète. Alors le bossu répéta. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tandis que les Corils tournaient avec une joie folle, enfin ils s'arrêtèrent et se pressant autour du Guilcher, ils dirent tous à la fois. Que veux-tu, que désires-tu, richesse ou beauté, fais un souhait et nous le te donnerons ce que tu auras voulu. Parlez-vous sérieusement, demanda le journalier. Que nous soyons condamnés à ramasser grain à grain tout le mil de l'évêché si nous ne trompons, répondirent-ils. Eh bien, reprit Guilcher, puisque vous voulez me faire un cadeau et que vous m'en laissez le choix, je ne vous demande qu'une chose, c'est d'enlever ce que je l'ai à entre les deux épaules et de me rendre aussi droit que le bâton de la bannière de l'Occeltas. Bien, 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 répliquèrent les Corils, sois tranquille, viens ici. Et saisissant Guilcher, ils le firent pirouetter dans l'air, ils le lancèrent de l'un à l'autre comme une pelote de laine, jusqu'à ce qu'il eût achevé le tour du cercle, alors il retomba sur ses pieds, étourdi, étouffé, mais sans bosse. Bénéade était rajeunie, agrandie, embellie, à moins d'être sa mère, ce n'était à ne plus le reconnaître. Devinez quel étonnement quand il reparut à l'Occeltas, on ne pouvait croire que ce fût Guilcher, sa femme elle-même ne savait trop si elle devait le recevoir. Pour se faire reconnaître, il fallut que l'ancien bossu lui dit au juste combien elle avait de coiffe dans sa crédence et quelle était la couleur de ses bas. Enfin, quand on fut assuré que c'était bien lui, chacun voulut savoir comment avait pu se faire un pareil changement, mais Bénéade pensa que s'il la voyait, on le regarderait comme le compère des Corrigans et que toutes les fois qu'il y aurait un bœuf égaré ou une chèvre disparue, on s'en prendrait à lui pour les retrouver. Aussi répondit-il à ceux qui l'interrogeaient que tout s'était fait à son insu pendant qu'il dormait sur la lande. Les mâles tournaient le crurent et allèrent tous les jours se coucher dans les bruyères avec l'espoir de se réveiller plus droit. Mais d'autres comprirent qu'il y avait un secret dont Guilcher ne pouvait rien dire. Parmi ceux-ci se trouvait un tailleur aux cheveux rouges et aux yeux de travers que l'on appelait Père Balibouzic, parce qu'il bredouillait en parlant. Ce n'était point comme son habitude, c'est pareil, un compagnon rimeur aussi gai sur son établi que le rouge-gorge sur sa branche et sentant les crêpes de froment d'aussi loin que le chien sans le gibier. Balibouzic ne riait pas, ne chantait jamais, ne se nourrissait que de pain d'orge dans lequel on voyait les pailles. C'était un avare et de plus un mauvais chrétien qui prêtait son argent à de si gros intérêts qu'il ruinait tous les pauvres journaliers du pays. Guilcher, lui, devait 5 écus depuis longtemps sans pouvoir les rendre. Père alla le retrouver et les lui demanda de nouveau. L'ancien bossu s'excusa en promettant de s'acquitter après les foins, mais Balibouzic déclara qu'il ne lui accorderait un délai qu'à la condition de savoir qu'il l'avait rajeuni et redressé. Ainsi forcé de tout avouer, Guilcher raconta sa visite au Coril. Il dit quels mots il avait ajouté à leur refrain et comment on lui avait donné à choisir entre deux souhaits. Père se fit répéter plusieurs fois tous les détails, puis s'en alla en avertissant son débiteur qu'il lui laissait 8 jours pour trouver les 5 écus. Mais ce qu'il venait d'apprendre avait éveillé toute sa rage d'avarice. Il résolut, dès le soir même, de se rendre au Motène d'Hervène, de se mêler à la danse des Corrigans et d'obtenir aussi le choix entre les deux souhaits proposés à Guilcher, richesse ou beauté. Dès que la lune fut levée, voilà donc Balibouzic, le louche, qui s'achemine vers la lande, sa petite fourche à la main. Les Corils l'aperçoivent, accourent à sa rencontre et lui demandent s'il veut danser. Père y consent, après avoir fait ses conditions comme Bénéade, et il entre dans leur ronde des petits hommes noirs qui se mettent à répéter le refrain agrandi par Guilcher. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Attendez, s'écria le tailleur, saisi d'une inspiration subite. Moi aussi, je peux ajouter quelque chose à votre chanson. Ajoute, ajoute, répondirent les corils, et tous reprirent ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils s'arrêtèrent et Balibouzik ajouta seul en bégayant. Et dimanche aussi. Les nains poussèrent une longue clameur. Après, crièrent-ils tous à la fois. Dimanche aussi, répéta le tailleur. Mais après, dimanche. Et après, dimanche aussi. Le cercle des corils se rompit, tous couraient comme furieux de ne pouvoir se faire comprendre. Le pauvre bec épouvanté demeura la bouche ouverte sans pouvoir rien dire. Enfin, les flots de petites têtes noires s'apaisèrent un peu. Ils entourèrent Balibouzik et mille voix crièrent en même temps « Fais un souhait, fais un souhait !» Père reprit courage « un sou, un souhait » répéta-t-il. Guilcher a choisi entre richesse et beauté. Oui, Guilcher a choisi beauté et laissé richesse. Eh bien moi, je choisis ce que Guilcher a laissé. Bien, bien, crièrent les corils. Viens ici, tailleur. Père enchanté s'approcha, ils l'enlevèrent comme ils avaient enlevé Bénéad, le firent rebondir de main en main jusqu'au bout de la chaîne, et quand il retomba sur ses pieds, il avait entre les deux épaules ce que Guilcherche avait laissé, c'est-à-dire une bosse. Le tailleur ne s'appelait pas Balibouzik tout court, c'était maintenant Tortik Balibouzik. Le pauvre déformé revint à l'Okeltas, honteux comme un chien qui a eu la queue coupée. Dès qu'on apprit ce qui lui était arrivé, il n'y eut personne qui ne voulut le voir. Toutes les commères venaient avec un vieux sabot dans la main, sous prétexte de demander du feu, et chacun criait « Jésus !» en voyant son dos devenu aussi rond que la margelle d'un puits. Père enrageait sous sa brosse et jurait tout bas qu'il se vengerait de Guilcher, car lui seul était cause du malheur, c'était le favori des corrigans et il leur avait sans doute demandé de faire cet affront à son créancier. Aussi, les 8 jours promis, une fois écoulés, Tortik Balibouzik annonça à Bénéad que s'il ne pouvait lui payer ses 5 écus, il allait avertir les hommes de justice de faire tout vendre chez lui. Bénéad eut beau le prier, le nouveau bossu ne voulut rien écouter et annonça dès le lendemain qu'il mettrait en foire ses meubles, ses outils et son pourceau. La femme de Guilcher jeta les hauts cris en répétant qu'il était déshonoré dans la paroisse, qu'il ne leur restait plus qu'à prendre le bissac et le bâton blanc pour aller mendier aux portes, que c'était bien la peine à Bénéad d'être devenu un homme droit et de belle prestance pour se laisser mettre la ceinture de paille et 1000 autres choses sans raison, comme en disent les femmes affligées et celles qui ne le sont pas. À toutes ces plaintes, Guilcher ne répondit rien, sinon qu'il fallait s'en remettre à la volonté de Dieu et de la Vierge, mais son cœur était humilié jusqu'au fond et il se reprochait maintenant de n'avoir point préféré richesse à beauté quand on lui avait laissé le choix, et il eût voulu pouvoir reprendre sa bosse bien garnie d'écus d'or ou même l'art d'argent. Après avoir cherché en vain un moyen d'en sortir d'embarras, il se décida donc à retourner au Moten d'Erven. Les corils le reçurent avec des clameurs de joie comme la première fois, ils lui firent place dans leur ronde. Quoique Bénéad n'eut guère le cœur au plaisir, il ne voulut point attrister la danse et il se mit à sauter de toutes ses forces. Les nains ravis couraient comme les feuilles mortes que le vent fait tourbillonner en hiver. Tout en courant, ils répétaient le premier vers de leur chanson, leurs compagnons répondaient par le second. Ils reprenaient le troisième et comme c'était le dernier, Guilcher était obligé de terminer l'air sans parole, ce qui au bout de quelques temps lui parut ennuyeux. « Si je disais dire mon avis, mes petits seigneurs, dit-il au corrigan, votre chanson me fait le même effet que le chien du boucher. Elle marche sur 3 jambes. C'est la vérité !» crièrent tous les 3 les voix. « Je crois qu'elle aurait meilleure façon si on lui ajoutait un 4e pied. »« Ajoute, ajoute !» répétèrent les nains. Et tous reprirent d'une voix perçante « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, avec le dimanche aussi. » Et il y eut un court silence. Les nains attendaient ce que Guilcher allait dire. « Et voilà la semaine finie !» acheva-t-il gaiement. 1000 cris qui ne formèrent qu'un cri s'élevèrent de tous les côtés de la lampe. En un instant, tout fut couvert de corrigans qui accouraient. Il en sortait des touffes d'herbe, des bouquets de genêts, des fentes des rochers. On y dit une ruche de petits hommes noirs. Tous, ils gambadaient parmi les bruyères. « Sur mon salut, que veut dire ceci ?» s'écria Bénéad étonné. « Cela veut dire, répliquèrent les corrigans, que Dieu nous avait condamnés à rester parmi les hommes et à danser toutes les nuits sur les landes jusqu'à ce qu'un chrétien eût complété notre refrain. » Tu l'avais déjà allongé et nous espérions que le tailleur envoyé par toi le finirait, mais il s'est arrêté au moment de l'achever et c'est pourquoi nous l'avons puni. Tu viens heureusement de faire ce qu'il n'avait point fait. Notre temps d'épreuve est fini et nous retournons dans notre royaume qui s'étend sous la terre, plus bas que la mer et les rivières. S'il en est ainsi, dit Guilcher, et que vous m'ayez cette obligation, ne partez point sans tirer de peine à un ami. Que faut-il ? De quoi piller Balibouzik aujourd'hui et le fournier toujours ? « prends nos sacs !» s'écrièrent les corrigans. Et ils jetèrent aux pieds de Bénéad les petites poches de toile rousse qu'il portait en bandoulière. Celui-ci en ramassa autant qu'il put en porter et s'en courut tout joyeux à la maison. Allumez la résine, cria-t-il à sa femme en entrant, et fermez la clé afin qu'aucun voisin ne puisse nous voir, car j'apporte de quoi acheter 3 paroisses avec leurs juges et leurs recteurs. En même temps, il déposa sur la table tous les petits sacs et se mit à les ouvrir, mais hélas, il avait calculé le prix du beurre avant d'avoir acheté la vache. Les sacs ne renfermaient que du sable, des feuilles mortes, des crins et une paire de ciseaux. À cette vue, il poussa un si grand cri que sa femme, qui était allée fermer la porte, revint sur ses pas en demandant ce qu'il y avait. Bénéa lui racontait sa promenade au Motten d'Anvern et tout ce qui s'y était passé. « Que Sainte-Anne nous assiste !» s'écria la femme effrayée. « Les Korrigans se sont joués de vous. »« Hélas, je le vois bien maintenant !» répondit Gilcher. « Et vous avez osé, malheureux que vous êtes touché à ces sacs qui ont appartenu à des maudits. »« Je croyais y trouver quelque chose de meilleur !» répondit pieusement Bénéade. « Il ne vient rien de valeur, de qui ne vaut rien !» répliqua la vieille femme. « Ce que vous apportez là va jeter un mauvais sort à la maison. »« Jésus, pourvu qu'il me reste de l'eau bénite !» Elle courut à son lit. Décrocha du mur un petit bénitier de faïence et y trempa une branche de buis, mais à peine la rosée de Dieu eut-elle touché les sacs que le crin se changèrent en collier de perles, les feuilles mortes en pièces d'or et le sable en diamants. L'enchantement était détruit et les richesses que les Korrigans avaient voulu cacher aux chrétiens étaient forcées de reprendre leur véritable apparence. Gilcher rendit à Balbouzix ses 5 écus, il donna à chaque pauvre de la paroisse un boisseau de blé avec 6 aunes de toile et paya au recteur 50 messes à 10 blancs. Puis il partit avec sa femme pour Josselin où ils achetèrent une maison et où ils des enfants qui aujourd'hui sont devenus des gentilshommes, évidemment. Et donc cette histoire, je l'ai fait un petit peu rapidement, j'en suis désolé, mais je devais la faire tenir en une quinzaine de minutes, j'ai un peu dépassé. Allez, je vous souhaite une bonne et agréable fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle et peut-être dernière histoire tirée du foyer breton d'Émile Souvestre. Ciao, bye bye, c'était Doré qui vous racontait des histoires toujours et encore.